Le baiser sur les yeux par Jean Rameau. Il y avait une fois un petit garçon de 12 ans qui cherchait des champignons dans une forêt. Et dans cette forêt, il rencontra une fillette de 13 ans qui cherchait des champignons comme lui. « Tu as de la chance, lui dit-elle, tu en as trouvé, toi. » En effet, il en avait trouvé 10 qu'il portait à la main, enfilés sur une tige de fougère. « Moi, soupira la fillette, je n'en ai pas trouvé un seul. » Comme elle était jolie, le petit garçon lui proposa timidement « Voulez-vous les miens, mademoiselle? Je vous les donne. » Elle sourit, et ce fut comme si un peu plus de lumière entrait dans la forêt obscure. « Oh non, je ne les veux pas tous, » dit-elle, « la moitié seulement. Partageons. Assieds-toi. » Ils s'assirent côte à côte et partagèrent. Elle prit les 5 plus gros, naturellement, puisqu'elle était jolie, et lui se contenta des 5 petits, puisqu'il était laid. « Merci. Tu es un brave petit garçon. Comment t'appelles-tu ? »
Victor Pratt.
Et moi, Léontine Laneluc. Es-tu riche?
Oh non, je n'ai que 34 sous.
Tant pis, moi j'ai presque 100 francs.
Nous ne pourrons pas nous marier.
Mais je t'aime bien tout de même.
Approche.
Et Léontine, la riche, baisa les yeux de Victor, le pauvre. Comme ce fut bon, ce baiser.
Adios,
dit-elle en se sauvant avec ses champignons. Tu me le rendras quand tu seras grand.
Il sera meilleur encore.
Un nouveau sourire. Un bout de chanson, puis rien. Léontine avait disparu. Alors le petit garçon posa les mains sur son cœur comme si un oiseau y chantait. Un baiser sur les yeux, tant de bonheur. Avait-il rêvé, lui, si laid et si pauvre, elle, si belle et si riche? Non, il n'avait pas rêvé. Il en voyait bien la preuve, sur cette terre molle. Il y avait l'empreinte d'une main, là-dessus. Et c'était la main de Léontine, la gauche. Elle l'avait appuyée là, pendant qu'avec la droite, elle lui avait attiré la tête pour l'embrasser. Il regarde l'empreinte. Quelle main fine! 4 doigts sur 5 s'y montraient, les doigts menus, les doigts de princesse. Oh, les regarder, toujours. Faire sa prière, là, devant, comme à l'autel de la Sainte Vierge. Il eut une idée. Pour qu'aucun passant n'effaçât cette empreinte, il coupa une 12aine de petits bâtons avec son couteau et les planta sur la terre argileuse en rond autour de l'empreinte. Et la main resta visible ainsi pendant 3 jours. Mais le 4e, il plut, et la terre se détrempa, la main s'effaça. Quelle tristesse! Alors, il eut une autre idée. Avec son couteau, il gratta cette argile molle, la recueillit toute et l'emporta comme un trésor chez le vieux Tonia, le potier voisin. « Bonjour, monsieur Tonia. Voici de la bonne argile. Voulez-vous faire une assiette avec? Une petite assiette pour moi. Je vous la payerai bien. J'ai 34 sous. » Voilà ce qu'il avait imaginé pour conserver le souvenir d'une main, d'un baiser, d'une heure douce comme si elle avait sonné à l'horloge du paradis. Faire une assiette, avec cette poignée de terre, la cuire, la peindre et manger sa soupe dans cette assiette jusqu'à sa mort. N'y retrouverait-il pas un peu le goût de la main, de la jolie main qui sentait le champignon, la jeunesse, l'amour? Le bon Tonia riait à cette proposition d'un enfant. « Mais trop sale, ta terre, que veux-tu que j'en fasse ?»
« Je vais la nettoyer, monsieur. Apprenez-moi. »
Le potier daigna lui apprendre, et quand l'argile fut propre, il lui montra comment on peut faire une assiette en la pétrissant avec ses pommes, en la modelant avec ses doigts sur le moyeu d'une roue horizontale qui tourne. Et Victor la façonna lui-même, son assiette, la mit au four, la peignit, la vernit. Et Tonia fut étonnée. « Tu as des dispositions, mon petit. Tu pourras devenir un bon potier. J'ai besoin d'un apprenti. Viens donc chez moi. » Et Victor apprit l'art du potier. Et il fut un si bon élève qu'à 18 ans, il attira l'attention d'un faïencier de Bordeaux qui le prit dans son usine. Et après avoir fait de la faïence à Bordeaux, il alla faire de la porcelaine à Limoges. Et à 34 ans, il épousa la fille d'un patron. À 40, il fut millionnaire. À 50, il eut une fortune considérable. Alors il s'en retourna au pays natal, acheta la forêt aux champignons, et il fit construire une villa superbe avec 12 chambres, 4 salons, 2 salles à manger. Et dans l'une des salles à manger, la grande, il y eut un dressoir magnifique où se voyait une collection de faïences et de porcelaines. Rouen et Sèvres, Nevers et Saxe, Bordeaux, Marseille et Limoges. Toute une étagère était consacrée à un service en vermeil aux armes de l'impératrice Joséphine. Mais au-dessus, à la place d'honneur, il y avait une écuelle grossière, jaunâtre, en terre cuite, qui jurait parmi tant de merveilles. Et c'était l'assiette initiale, celle qui avait été faite jadis, en commémoration d'une main, d'un baiser. Et M. Victor Pratt, multimillionnaire, mangeait dans celle-là le jour de sa fête. Or, un après-midi, comme il rêvassait sous une pergola de rosiers rouges, Victor vit une vieille mendiante arriver devant lui. « La charité, s'il vous plaît, mon bon monsieur. » Il lui donna un billet de 5 francs. « Merci, » dit-elle reconnaissante. Puis, jetant un regard autour d'elle, « Comme tout a changé par ici. Autrefois, il y avait là un bois sauvage avec des champignons. »«
Ah ?» fit Victor intéressé. « Vous êtes du pays ?»«
Oui, monsieur. Comment vous appelez-vous »
« Léontine. »«
Léontine ?
Ah, Léontine comment ?»«
Lanluc. »«
Léontine Lanluc, »
murmura-t-il.
Et ses regards se posèrent plus aigus sur cette femme. « Était-ce bien elle ?»«
Oui, évidemment. »«
Et vous mendiez ?»
demanda-t-il d'une voix qui s'altérait dans sa gorge.
« Eh oui, monsieur, j'ai eu tant de malheur. »
Il se leva chancelant et alla vers elle.
« Montrez-moi votre main, » dit-il. « Celle-ci, la gauche. »
Oui, ce doit être celle-là.
Sans cette main, pourtant. Il garda le silence quelques secondes. Ensuite, il reprit d'une voix plus ferme. « Madame, faites-moi l'honneur de dîner avec moi. Oh, monsieur, moi, une pauvresse. »
Il n'écouta pas ses protestations. Il se tourna vers l'office et dit à la cuisinière.
« Mettez le couvert dans la salle à manger, la grande, et le service en vermeil pour madame, l'assiette de terre pour moi. Veuillez entrer, Léontine. » « Donnez-moi votre main, la gauche. »
Et il conduisit la mendiante au salon Louis XIV. Dans la salle à manger où ils passèrent ensuite, il la fit asseoir dans une cathèdre sculptée aux armes de Jeanne d'Albret. Et les assiettes du service impérial défilèrent devant la mendiante pleine d'aliments savoureux, et des vins de grand cru lui furent versés dans des verres de Venise. Et comme elle s'effarait, éblouie, honteuse, ne comprenant rien aux beautés de cet homme, il lui dit à la fin de ce repas extraordinaire,
« Vous souvenez-vous, Léontine, d'un enfant qui s'appelait Victor ?»«
Non, »
répondit-elle à demi-voix,
« d'un enfant qui vous a donné des champignons un jour. »«
Non,
que vous avez baisé sur les yeux. »«
Ah, il me semble. »
Victor s'approcha d'elle et lui mit son portefeuille dans la main, la gauche, celle de l'empreinte.
« Voici pour vous, Léontine. L'enfant d'autrefois a été fort heureux de vous retrouver aujourd'hui. Prenez, il y a quelques billets, de gros billets. »
Elle ne prenait pas. Elle joignait ses mains et ses yeux se remplissaient de larmes. Elle se rappelait à présent. Elle devinait.
« Oh mon Dieu »
soupira-t-elle.
Et ses yeux s'illuminaient, s'élargissaient, comme dans la vision d'un miracle. Alors, ils furent si beaux, ses yeux de pauvresse, que Victor Pratt les baisa, tour à tour, en fermant les siens.
« Tu me rendras ce baiser quand tu seras grand ?»
lui avait-elle dit. Il était grand, il était vieux, trop vieux.
Il le lui rendait quand même.
Et l'oiseau d'autrefois dut rechanter dans son cœur.
Une heure après qu'elle fut repartie, titubante, non pas à cause du vin mais du bonheur éprouvé, Victor fut surpris de trouver le portefeuille sur la table, le portefeuille intact avec son contenu. La mendiante l'avait laissé là. Était-ce un oubli ou bien...
Il la fit rechercher dans la forêt, dans la campagne.
On ne la trouva pas.
Ainsi s'achève Le baiser sur les yeux par Jean Rameau.